Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers nos stations partenaires. Nous sommes jeudi 16 avril 2015. Bienvenue à cette émission, une émission qui est consacrée aujourd'hui au respect du droit des femmes. Nous avons comme invité pour en parler, d'abord par téléphone, Fatoumata Siré Diakité de l'Association pour la défense et le progrès des femmes, ADPF. Et nous avons également Jean Fomba d'ONU Femmes et Madame Boiré Bintou Founé Samake de l'ONG WILDAF. Alors, je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. WILDAF se mobilise donc autour d'un forum pour la mobilisation, donc la sensibilisation et l'information des femmes sur les questions du genre et des questions sur l'inégalité constatée entre hommes et femmes. Alors ce forum qui se tient actuellement à Bamako, qui s'est ouvert donc mardi dernier, est-ce un forum de plus ou bien tente-t-il donc d'apporter quelque chose de nouveau, Madame Boiré Bintou Founé Samake de WILDAF?
Merci, ce n'est pas pour un forum de plus, mais encore c'est pour pouvoir mieux réfléchir à cette question des droits des femmes. Vous savez que le Mali traverse une période très délicate et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être examinées et beaucoup de choses sont en voie d'être mises sur pied. Donc voilà. C'est à ça que nous réfléchissons et voir concrètement qu'est-ce que les femmes peuvent apporter et qu'est-ce qui est réservé aux femmes.
Alors, Jean Fomba, vous êtes d'ONU Femmes, un homme qui défend la cause des femmes. Est-ce un paradoxe?
Non, ce n'est pas un paradoxe, c'est tout à fait logique et normal.
Alors, un forum consacré à la défense des droits des femmes, en quoi est-ce que les femmes du Mali, les femmes des zones rurales doivent se sentir concernées par ce forum qui se tient aux environs de la capitale?
Bon, en fait, vous savez très bien que ONU Femmes apprécie tout ce qui est rencontre, échange, débat par rapport à la promotion des droits des femmes. Et c'est dans ce mouvement d'ensemble des femmes que ONU Femmes même a été créée au sein des Nations Unies. Donc, un tel forum de rassemblement des femmes qui prennent l'agenda pour mettre en place une agence capable de les renforcer, mais capable aussi de les soutenir, il n'y a de mieux que par rapport au forum. En fait, chaque fois qu'on parle de forum, les gens vont dire, oui, c'est des gens qui vont discuter, échanger. Mais on va discuter, échanger de quoi? Parce que c'est lors des forums, c'est lors des discussions que jaillit la lumière. Et c'est lors de ces forums, de ces échanges, qu'on connaîtra des situations nouvelles, qu'on connaîtra des gens qui sont frustrés, qu'on connaîtra aussi des partages d'expériences qui vont pouvoir prendre en compte certains aspects et qu'on puisse essayer de les alimenter ou de les ramener au Camalien. Et je pense que ces forums-là, c'est riche d'expérience. Et une fois que les femmes rurales arrivent à ces forums aussi, ça leur permet de comprendre mieux et vraiment de retourner à la base, requinquer, et aussi avec des espoirs, des mots d'espoir et aussi des choses qui peuvent prendre en compte, principalement par rapport aux droits des femmes.
D'accord. Alors, Madame Boiré Bintou Founé Samake, vous êtes de WILDAF. Cette mobilisation est à l'actif de WILDAF, donc votre organisation. Est-ce que on peut dire avec vous, savoir avec vous, qu'est-ce que ce forum, sur quoi ce forum va réfléchir et qu'apporte-t-il de nouveau?
Donc, ce forum va tout d'abord réfléchir sur tout ce qui est en train d'être préparé, tel que les accords d'Alger. Ça, c'est un premier point. Et le second point, qu'est-ce qui existe réellement actuellement pour les femmes en matière de droit et qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? On a le droit positif, c'est-à-dire le droit qui est élaboré et promulgué par l'État, etc. Mais aussi, il y a des situations qui existent, qui sont tout à fait très différentes de ça, telles que nos coutumes, nos pratiques. Comment nous pouvons nous mouvoir dans tout ça? Et quelles sont les voies de recours qui s'offrent aux femmes quand il s'agit de mettre en pratique tout cet ensemble? Voilà sur quoi nous nous sommes donné comme agenda de réfléchir pour pouvoir vraiment sortir des stratégies et mieux promouvoir notre citoyenneté au sein de nos communautés.
D'accord. Alors, je rappelle que ce débat est organisé en partenariat avec la Fondation Ford. Alors, Zanfomba, vous êtes d'ONU Femmes. Malgré les idées, malgré les initiatives, Dieu seul sait si il y en a aujourd'hui à l'endroit des femmes, pour la promotion des femmes, certains problèmes restent, demeurent toujours, notamment la scolarisation des petites filles. Aujourd'hui, c'est un véritable problème dans la promotion féminine. Qu'est-ce qui est fait au niveau d'ONU Femmes pour endiguer ce problème?
Vous savez que ONU Femmes, qui est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'inclusion de la femme, œuvre dans plusieurs domaines par rapport. Mais de façon brute, la situation des filles revient de beaucoup plus sur le mandat de UNICEF. Mais à l'intérieur de ce mandat de UNICEF, qu'est-ce que nous on peut regarder en tant qu'ONU Femmes? C'est le respect des genres, des besoins différenciés des hommes et des femmes, des filles et des garçons se trouvant à l'école. Il va de comment? D'abord, le manuel même scolaire qui est donné aux enfants a perpétué jusqu'à un certain moment une inégalité entre les filles et les garçons.
En quoi?
Parce que chaque fois que vous ouvrez un manuel scolaire au Mali, soit vous voyez une femme en train de piler, une femme en train de balayer, une femme en train de porter de l'eau, et vous voyez les garçons en train de jouer au football ou faire d'autres discernements par rapport à cela. Et ça crée un stéréotype qui est là, qui croit conditionner le devenir de cet jeune enfant depuis le bas âge. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit regarder de près? Les conditions physiologiques des filles et des garçons diffèrent. Donc, normalement, dans un centre institution de formation scolaire, les toilettes dédiées aux garçons et aux filles ne doivent pas être la même chose. Parce que la femme, elle a un besoin particulier à des moments donnés qui doit être satisfait par rapport à ça. Donc, notre regard sur l'éducation peut se cadrer par rapport à ça.
Donc, l'environnement scolaire ne convient pas du tout.
Bon, la plupart du temps, ça ne convient pas, ça ne favorise pas,
la scolarisation des filles.
Et en second lieu, vous savez, hier, on était en échange à l'ambassade des États-Unis, on en a parlé de cela. Jusqu'aux indépendances du Mali, la plupart des enseignants étaient des hommes. Si bien que même la mentalité malienne comprenait souvent mal une femme enseignante. Parce qu'on ne voyait dans un premier temps que des hommes et aller à l'école. Et c'est ce qui a même encouragé dans un premier temps l'enseignement exclusif des garçons pendant la colonisation. La plupart des élèves, à 99,99%, étaient des garçons. Vous allez compter, on peut remonter l'histoire et vous allez prendre que c'est très rare les femmes, les jeunes filles qui sont parties à l'école dans les années 1907-1906. La plupart étaient des hommes et des garçons.
D'accord.
Donc, c'est ce qui a perpétué par rapport à là. Tous ces enseignants étaient des hommes aussi. Donc, ça fait comprendre parce que l'enseignement n'était pas d'abord venu pour nous, pour être de façon générale. Il était venu pour servir d'abord le colonisateur.
L'administration coloniale.
Donc, ça fait... Et nous, on a continué avec ces séquelles-là. Et c'est ce qui a fait même que les brochures de Mamadou et Binita, quand vous les regardez, c'est des stéréotypes qui sont là. Le contenu, il est très bon. Mais l'image qui accompagne l'illustration n'est pas... n'est pas adéquat pour aujourd'hui. Donc voilà les aspects que ONU Femmes regarde et pourrait regarder dans la mise en œuvre, parce que ONU Femmes est aussi, on dirait, le gendarme entre guillemets des questions de genre au sein des Nations Unies et même au-delà de tous les partenaires techniques et financiers.
D'accord. Je rappelle que Fatoumata Siré Diakité n'est toujours pas joignable sur son portable. Nous allons nous contenter de Madame Boiré Bintoufoune Samake de Wildaf. Alors, Madame, aujourd'hui, vous sensibilisez les femmes pour une prise de conscience par rapport à leurs droits. Est-ce que cela passe obligatoirement? Est-ce que c'est un moyen plus efficace que celui de passer par les jeunes filles?
Bon, les femmes sont les mamans des jeunes filles. C'est que quand elles sont suffisamment informées et sensibilisées, elles transmettent facilement ces connaissances acquises à leurs filles. Mais il y a des filles qui sont concernées, celles qui ne fréquentent pas l'école, elles sont concernées par ces séances d'information et de sensibilisation. Donc, il s'agit au cours de ces séances de pouvoir leur apporter des informations utiles, comment un peu maîtriser son environnement juridique et comment se servir des stratégies qui lient le droit au développement pour mieux, comme Zan l'a dit, se promouvoir et aller vers une autonomisation plus saine. Voilà un peu de façon générale les quelques idées phares qu'on leur donne pendant ces séances d'information et de sensibilisation.
Alors, les questions du genre sont butent et aujourd'hui à beaucoup de tabous, notamment les barrières sociales aujourd'hui. Alors, Zan Fomba, quand on sait que ce forum informe et sensibilise les femmes sur les questions du genre, sur l'égalité donc entre hommes et femmes, est-ce que les barrières sociales peuvent être quelque peu titillées par les experts?
Oui.
Sont-ils franchissables?
Oui. Il y a, pour moi, à mon avis, il n'y a pas de barrières infranchissables. D'autant plus que quand on cherche le développement, l'épanouissement, le bonheur et le bien-être même de l'individu, moi je pense que rien n'est infranchissable. À un moment donné, au Mali, on pratiquait assez de choses telles que les balafres. Aujourd'hui, ça a disparu. Parce qu'on a pris conscience par rapport à cela et on a laissé les balafres. Dans le temps, la plupart de nos chefs traditionnels, ils ne portaient pas des chaussures de blanc. Ils ne portaient même pas des chaussures. Aujourd'hui, cette pratique a disparu par rapport à la force des choses. Donc, il n'y a pas de tabou infranchissable. Mais seulement, le tabou qui est difficile et qui persiste, c'est le tabou lié au sexe, c'est-à-dire la discrimination de la femme parce qu'elle est femme. C'est ça le tabou qui persiste aujourd'hui. Et chaque fois que la construction sociale a été faite de façon par les hommes, vous savez, depuis des millénaires, c'est les hommes qui ont toujours dirigé. Et chaque fois qu'on parle des droits des femmes, ils pensent automatiquement à cette extorsion de pouvoir qu'on est en train de préparer pour pouvoir la ville. Ce n'est pas ça. Mais les droits des femmes, tels qu'ils sont reconnus par la Charte des Nations Unies, par la Constitution de la République du Mali, prennent l'égalité en droit et en devoir. Et quand vous prenez l'égalité en droit et en devoir, cela veut dire qu'il n'y a pas deux façons de passer. On doit passer par la même chose. Maintenant, quand vous parlez de cela, mais souvent aussi, notre propre loi en la matière viole ces mêmes principes d'égalité égalitaire. Quand vous prenez aujourd'hui le code du mariage, il fixe l'âge de mariage de la fille à 16 ans et l'âge du garçon à 18 ans. Ça, c'est une discrimination qui est là, qui n'a pas de sens. Et plus loin, l'État du Mali même reconnaît l'individu en tant que tel citoyen à partir de 18 ans. Cela veut dire que l'enfant que vous avez mis en place pour être marié à 16 ans, vous êtes en porte-à-faux avec les dispositions et les normes principales qui sont là.
Donc la loi viole la loi.
La loi viole la loi.
La loi, effectivement.
Quelques secondes de pause et nous nous retrouvons en Fomba pour la suite.
Okay.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, c'est notre compte Twitter et également notre site web www.studiotamani.org. N'oubliez pas notre page Facebook sur laquelle vous pouvez donc réagir face à ce que vous entendez donc à partir de ce studio ou écouter tout simplement cette émission en direct sur notre site web www.studiotamani.org. Alors, nous étions avec Zan Fomba, cette émission mission réfléchit donc sur la lutte contre les droits des femmes au Mali. Nous sommes à la deuxième partie. Que dit la loi justement sur cette question de droits des femmes en FOMA? Nous étions avec vous et nous restons avec vous.
Ok, en fait, ce que je disais, la loi qui est la loi fondamentale de la République du Mali, qui est la constitution de février 1992, prône l'égalité en droit et en devoir de tous les Maliens. Mais ce que je disais aussi, c'est une autre contradiction dans les dispositions du code du mariage du Mali, dit que la jeune fille doit être mariée à l'âge de 16 ans et le garçon 18 ans révolu. Donc là, il y a deux poids, deux mesures. Normalement, soit vous partez sur le même pied d'égalité des 16 ans pour tous les deux sexes, ou vous partez sur le sexe d'égalité des 18 ans. Mais là n'est pas le problème. Le problème se situe à un autre niveau. Quand le garçon atteint 18 ans, les parents ne disent pas « marie-toi ». Mais une fois que la fille atteint cet âge-là, les dispositions sont préparées, les alliances sont formulées pour la mettre dans un mariage, même si elle est en train d'étudier. Et c'est là qu'il fausse les données, parce qu'on attend à ce que l'homme termine son cursus scolaire universitaire, donc à 24 ans, 30 ans, et c'est après cela, quand il commence à travailler, que tout est préparé pour lui maintenant, qu'on lui met dans un voie de mariage. Et en ce moment, tout est biaisé par rapport à cela. Et c'est là où j'ai dit que la loi viole la loi.
Mmh. Alors, madame, une question peut-être sur la loi aujourd'hui. Est-ce que, avant d'en venir donc à cette question sur la loi, est-ce que, à travers ce forum, vous avez l'impression que vous cassez les barrières en allant vers les femmes et en les sensibilisant sur leurs droits?
Bon, nous essayons de franchir les barrières. Nous essayons de franchir les barrières parce que, en ce sens que, si vous regardez au sein de nos communautés, quel est le constat qui se pose? C'est que les femmes sont régies par plusieurs dispositions. Il y a la tradition, il y a les textes religieux, il y a le droit positif malien. Et souvent, dans les communautés au niveau rural, vous trouvez que on fait souvent fi du droit positif. On se contente des coutumes et des traditions. Et le constat est que souvent, ces coutumes et traditions sont défavorables aux femmes. Donc, il s'agit, parce que ce que nous faisons, c'est d'intervenir un peu à la place de l'État. Parce que il revient à l'État de pouvoir vulgariser les lois qui sont adoptées et qui régissent les relations entre les individus au sein de la communauté. Mais généralement, lorsqu'une loi est promulguée, ça s'arrête là. Et cette loi, elle est dans un texte, dans une langue souvent qui est totalement ignorée, inaccessible aux populations à la base. Donc nous nous donnons ce devoir de pouvoir vulgariser ces textes et de leur faire comprendre que ce sont ces textes aussi qui régissent votre vie. Et une fois que vous voulez saisir les opportunités pour aller vers l'administration, ce sont ces textes qui marchent. C'est pas les coutumes, c'est pas les traditions, ce n'est pas la loi religieuse, même si nous trouvons ces textes comme des éléments de base pour l'élaboration des textes promis par l'État. Mais c'est le droit positif qu'on parle une fois qu'on veut s'adresser à l'administration, une fois qu'on veut s'adresser aux juridictions, ce sont ces textes. Donc, il faut les comprendre, pouvoir saisir les opportunités lorsque vous voulez aller. Mais même lorsque vous voulez vous exprimer en tant que citoyen, ce sont ces dispositions qui marchent. Ce n'est plus... Bon, c'est vrai qu'il y a des élections de chefs de village, mais tout ça est régi par ces textes. Donc, il faudra que les populations à la base s'en approprient pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc, nous essayons plus ou moins de franchir les barrières, si je peux m'exprimer ainsi. Mmh. Oui.
Alors, une idée peut-être sur le respect donc de ces différentes lois en faveur des femmes, Madame Boiré Bintoufouné et Samaké de Wildaf.
Bon, le respect pour ces différentes lois. Bon, je dirais tout simplement que effectivement, il y a des dispositions qui sont là pour pouvoir garantir toutes ces libertés. Mais une fois qu'il s'agit pour les femmes de pouvoir aller vers les juridictions ou quand elles ont, quand leurs droits sont violés, elles ont assez de difficultés pour pouvoir saisir ces juridictions. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a l'obstacle de la connaissance des procédures. Il y a l'obstacle de l'éloignement de ces juridictions. Mais aussi, il y a ce que Jean a dit. Il y a cette inégalité de genre aussi qui se pose parce que la saisir ces opportunités, ce n'est pas souvent gratuit. C'est qu'il faut souvent avoir les moyens pour pouvoir y accéder. Tout ça, ce sont des obstacles. Mais aussi, souvent, ceux qui doivent mettre en branle ce processus de la justice ne comprennent pas beaucoup ce que ces femmes ressentent sous le poids de ces traditions et de ces inégalités. Et on trouve souvent, comme il a dit, plus d'hommes que de femmes. Donc souvent, il n'y a pas beaucoup d'hommes genre sensibles. Ce qui fait aussi que ces femmes traversent beaucoup d'obstacles pour pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à elles.
Alors, Zan Fomba, merci beaucoup, madame. Zan Fomba, vous êtes d'ONU Femmes. L'ignorance vient d'être évoquée éloquemment par madame Boire Bintoufine Samake de WILDAF. Est-ce que c'est à la base donc de cela pénalise les femmes aujourd'hui? Cette ignorance de la majorité des femmes pénalise-t-elle les femmes dans leur promotion?
Oui, bon, vous savez, l'ignorance, de façon, je ne dirais pas logique, mais de façon compréhensive, pénalise et les pays et en plus grand ressort les femmes. Quand vous prenez les statistiques de par le monde, l'Afrique subsaharienne, là où le Mali fait partie, a le taux le plus élevé d'analphabète au monde. Et sur ce taux le plus élevé, presque 80%, les femmes comptent 64%. Vous voyez déjà que c'est une masse critique par rapport à ça. Et sur les 64%, quand les femmes comptent 64%, les jeunes, y compris garçons et femmes en ce moment, ils forment le taux de 89%. Cela veut dire, en nette position, que cette disposition, le fait d'ignorer, parce que on parle une langue officielle qui est différente de nos langues, et aussi on n'a jamais pu avoir de l'indépendance à nos jours. Aucun pays en Afrique du Sud-Saharienne n'a pu avoir le consensus diriger une de ces langues locales comme loi. Et vous voyez le cas du Mali, chaque et région, sinon chaque cercle pratiquement a sa langue dans laquelle les élèves travaillent d'abord dans un premier temps au premier cycle et ensuite quand ils reviennent au second cycle ou à l'université, ils travaillent dans la langue française beaucoup plus. Donc ça c'est un handicap par rapport à cela. Mais quand vous revenez, beaucoup plus encore vous ressentez, il y a à peu près les 11 pays dont le Mali fait partie, on a moins de 50% d'adultes alphabétisés. Donc ça pose un problème de compréhension. Même si on était au moins alphabétisé dans une langue, on pourrait écrire cela et pouvoir conserver. Parce que aujourd'hui notre façon de travailler n'a pas évolué. Depuis le Moyen-Âge, on est resté dans la même logique d'oralité. C'est-à-dire on est plus enclin, même la plupart des Maliens, même si on va à l'école, on est plus enclin à retenir dans la tête qu'à écrire. Et donc cela pose beaucoup de problèmes et ça perpétue l'analphabétisme de façon logique par rapport à cela.
Alors, qu'est-ce que tous ces constats-là donnent comme place à la femme dans le milieu familial, Madame Boire Bintoufine Samake de WILDAF?
Bon, dans le milieu familial, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que si nous regardons réellement les faits et dans les textes, c'est que la femme occupe une place secondaire. Parce que dans les textes, il est dit que le mari est le chef de famille. Donc, s'il y a un chef, Ça veut dire qu'il y a des subordonnés. Mmh. Donc les subordonnés ne peuvent être que les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que de façon générale, le statut de la femme par rapport au sein de la famille, c'est un statut, je dirais, entre guillemets, faible. Parce que lorsque vous mettez quelqu'un dans un niveau de subordination, ça veut dire qu'elle n'est plus indépendante. Et si nous examinons nos textes réellement, vous trouverez qu'il y a des discriminations flagrantes dans les textes, surtout dans le code du mariage. Je dis souvent aux femmes, je dis, faites très attention par rapport à ce texte qui nous régit. Parce que quand vous dites que le mari est le chef de famille et qu'à ce titre, les charges du ménage lui incombent et que la femme ne peut que, vraiment, si elle a des revenus, contribuer. Ça veut dire quelque part qu'elle est totalement dépendante de son mari. Ça, c'est un premier point. Et le second point, si nous examinons ce texte, il est dit qu'une femme aujourd'hui ne peut pas être domiciliée quelque part sans l'autorisation de son mari. C'est un article très, très, très subtil. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est domicilié quelque part, ça veut dire là où tu as tes intérêts, là où tu travailles, là où tu es établi pour avoir des revenus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui au Mali, une femme ne peut pas travailler sans l'autorisation de son mari. Donc ça veut dire que la subordination aujourd'hui, elle devient totale. Non seulement le mari est chef, mais vous ne pouvez plus entreprendre sans l'autorisation du mari. Donc ça veut dire que nous avons un statut aujourd'hui qui n'est pas du tout positif, si je peux m'exprimer ainsi.
Selon les femmes.
Oui.
Parole de Bintou Founé Samaké, de Madame Boiré Bintou Founé Samaké, qui est donc de Wildaf. Alors, on me fait signe que nous avons Madame Fatmata Siré Diakité de l'Association pour la défense et le progrès des femmes ADPF. Madame, merci infiniment pour votre disponibilité. Nous savons ce que vous vivez en ce moment et merci donc pour ce temps que vous nous accordez. Alors, vous avez eu la chance d'entendre quelques mots de Madame Boiré Bintou Founé Samaké de Wildaf sur la place de la femme dans le foyer. Alors, nous allons voir avec vous quelle est votre idée sur cette place de la femme dans le milieu familial.
Bon, je voudrais d'abord féliciter ma petite sœur et je suis désolé de prendre l'émission en vol parce que j'étais dans les funérailles de parents. Donc, oui, la place de la femme dans la famille, comme l'a dit ma petite sœur, donc, c'est toujours là, le rôle traditionnel qui lui est dévolu. Même si la femme a tous les diplômes du monde, elle reste toujours une épouse. Et il était même dit sur son bulletin de salaire à un moment, depuis jusqu'à 92, la femme travailleuse était considérée comme célibataire et sans enfant, bien qu'elle ait des enfants et qu'elle soit une femme mariée. Donc, la place de la femme dans la famille, c'est le rôle traditionnel. Vous êtes tous deux travailleurs et travailleuses, le mari et la femme. Vous revenez du travail et le premier geste de la femme, c'est d'aller dans la cuisine pour voir qu'est-ce qui a été préparé. Et l'homme directement se dirige vers le salon, il met la télé en marche. Il appelle la femme de la cuisine pour qu'il vienne lui ouvrir le frigo, lui donner à boire alors que le frigo est à côté de lui. Donc je pense que ce rôle n'a pas changé. Et le code de la famille nous a encore enfoncé. Donc, le rôle traditionnel de la femme épouse la femme mère, ça fait que même si une femme, s'il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est la femme qui est accusée de ne pas pouvoir faire d'enfant, alors que l'homme pense qu'il est viril, il est capable de tout. Donc, quand on demande souvent à l'homme d'aller faire le test, il refuse, il dit que non, lui, il n'a rien, c'est la femme qui a quelque chose. Donc, ce rôle n'a pas du tout changé, malheureusement. Nos mamans ont suivi cela, nous sommes en train de subir et malheureusement nos enfants, nos filles vont subir ce même rôle traditionnel à cause du code de la personne de la famille qui a été adoptée en 2011.
Mmh. Merci beaucoup, Madame Fatmata Siré Diakité de l'Association pour la Défense et le Progrès des Femmes, ADPF. Restez avec nous, nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui avec ses invités sur donc la place de la femme au Mali, en parlant donc de ses droits, comment préserver le droit donc des femmes dans le système familial. Aujourd'hui, nous sommes avec trois invités pour en parler. Zanfomba, alors comment réduire les inégalités que subissent les femmes donc au Mali?
Il s'agit d'abord, dans un premier temps, comme on l'a effleuré, d'informer, de sensibiliser, communiquer sur ces aspects. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui persistent.
Auprès de qui?
Auprès de l'ensemble de la population. Mais plus spécifiquement, que la communication rentre au niveau familial. Parce que c'est le statut même social, le comportement communautaire, est créé depuis la base familiale. Donc une fois que la cellule familiale commence à faire des changements là-dedans, et ces changements peuvent être perçus ailleurs par rapport à cela. Maintenant, après ces formes de communication, d'information, il faut aller aussi même jusqu'au cursus scolaire primaire pour faire comprendre aux petits garçons et à la petite fille que aussi bien que le garçon peut balayer, la fille aussi peut balayer. Parce que, je vais vous dire une anecdote, je suis du village typiquement Bambara. À notre temps, le garçon n'était pas admis à balayer. Mais quand je revenais des écoles, comme je n'ai pas fait pendant les vacances, j'ai aidé ma maman à faire tout ce qui avait de travaux. Je l'accompagnais même pour couper du bois pour elle. Mais c'était mal vu. Mais je suis allé comme ça parce que j'ai été élevé par ma grand-mère, j'ai pilé pour elle. Donc cela veut dire, tant que je ne vous parle pas que j'ai pilé, personne ne le sait. Et pourtant, j'ai pilé, j'ai écrasé les maïs pour ma grand-mère. Mais aujourd'hui, je ne suis que le fruit.
Vous défendez la cause des femmes.
Non, je ne suis que le fruit de ce que elle m'a pu inculquer à moi. Parce que c'est elle qui s'est battue pour que je parte à l'école. Donc à cause d'elle, je me bats aussi pour la femme. Et pour elle, à sa mémoire aussi.
Alors.
Donc, ça, c'est des choses qu'on doit faire. Maintenant, en plus des actions de sensibilisation, de compréhension, d'éducation à la base, il faut aussi chercher à mettre des lois et les appliquer sur tout. Pratiquement, il n'y a même pas de loi à prendre et à appliquer. Que le Mali puisse entrer directement, domicilier tous les traités et conventions qu'ils ont signés par rapport à la CDF, par rapport à la loi de Maputo. On va nous dire que ce n'est pas des trucs importés. C'est des comportements, des trucs analysés en Afrique et des décisions ont été prises en Afrique.
Merci beaucoup, Zanfomba. Je rappelle que vous êtes d'ONU Femmes. Alors, Mme Boiré Bintoufoune Samake de Wildaf, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le code de la famille qui a eu du mal à passer ici au Mali?
Ah, ben. Il y a beaucoup de choses qui bloquent. C'est que. Il y a des incompréhensions parce que aujourd'hui le constat est que le Mali est à un carrefour de changement où il y a vraiment, nous sommes, comme les gens aiment à le dire, nous sommes dans un monde de globalisation où des civilisations différentes sont en train de se frotter. De se rencontrer. Je pense que le code des personnes et de la famille du Mali est le fruit de ce frottement de civilisation. Parce que vous savez, il y a des courants religieux qui sont en train de prendre le pas et qui pensent que ils n'ont rien à envier à la civilisation occidentale et qui ont en arrière-pensée que ces relectures des textes ne sont que l'image de la civilisation occidentale. Je dirais qu'il n'y a rien de tel. Le code des personnes et de la famille est le fruit de la réflexion de toutes les couches sensibles du Mali pour aller vers une relecture de nos textes. Et lorsque ce code a bloqué, c'était pour pouvoir montrer une certaine capacité de mobilisation et de pouvoir saisir une opportunité pour s'insérer dans les rênes de l'État. Mmh. Et je l'ai toujours dit à nos hommes politiques au sein de nos associations et ONG, j'ai dit, lorsque la religion s'invite dans le politique, la gestion devient très délicate. Et je dirais que ce code a été l'avant-goût de l'invasion du Nord par les djihadistes. Parce que ça a donné des arrière-pensées à beaucoup de gens qui disent, bon, c'est une occasion pour prendre cet État en otage. Et ce qui bloque, c'est que nous voulons mettre beaucoup de choses ensemble, comme je vous l'ai dit. Il y a les coutumes, il y a la religion, il y a la loi moderne qui sont présents au sein de notre État. Et nous voulons mettre tout ça dans un même panier pour trouver vraiment un consensus. Donc voilà un peu ce qui bloque. Et je dirais aussi que quelque part, tous ces textes, on a voulu faire comprendre que c'est les femmes qui veulent saisir. J'ai dit non, je saisis votre antenne pour lever l'équivoque. C'est que ça n'a pas été quelque chose qui a été demandé par la société civile. C'est un projet de loi. Ça veut dire que c'est l'État qui s'est engagé pour aller vers cette réforme. Et donc, l'État n'a qu'à se donner les moyens pour pouvoir faire aboutir ces réformes et de les appliquer.
D'accord. Alors,
voilà ce qui bloque.
Merci beaucoup, Madame Boiré Bintoufina Samake de WILDAF. Alors, Fatoumata Sidiakité, vous êtes de l'Association pour la Défense et le Progrès des Femmes, ADPF.
Je vais corriger.
D'accord.
APDF.
APDF.
L'Association pour le Progrès. Et la défense des droits des femmes, APDF.
APDF, autant pour moi. Oui. Alors, madame, est-ce que c'est de la misogynie d'aller à l'encontre donc de ce code de la famille ici au Mali?
Comme vous l'avez bien dit, donc ce n'est même pas un code pour les femmes. C'est un code des personnes, hommes et femmes, et de la famille. Mmh. Donc ça voudrait dire que ce code-là, ce n'est pas, c'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes. Il y a eu une incompréhension, mais il y a eu une volonté manifeste de mauvaise foi d'aller interpréter le code à l'envers. Il y a eu un groupe qui a pris le pays en otage. Le Mali s'est engagé à travers des résolutions et des conventions qu'il a eu à accepter ou à signer. Donc il était normal que le Mali aille dans ce sens de son engagement. Avoir un code qui va dans le sens du respect des droits de l'homme et de la femme n'est pas qu'on est en train d'imiter l'Occident. Le Mali est un pays laïque, on n'est pas un pays islamiste. Il n'y a pas que l'islam comme religion au Mali. Nous avons aussi les autres religions qui, et sur ce plan-là, même s'il y a un nombre numérique, la majorité ne domine pas la minorité en termes religieux au Mali. Les religions se valent. Donc, un pays laïque, on ne peut pas être pris en otage par une seule religion, même pas une religion, par un groupe d'individus qui ont pris le Mali, qui ont pris le pays en otage. Et c'était seulement 3-4 articles qui étaient tout ce processus-là. Nous avons tous été là, avec toutes les religions du Mali. Les musulmans étaient là, les catholiques étaient là, les différentes branches religieuses étaient là, ils ont participé à tout le processus. Donc, on n'a pas compris qu'à la dernière minute, qu'un groupe d'individus se soit élit domicile. Le Parlement soit resté au Parlement pendant plus de 3 mois et il fallait seulement changer 4 ou 5 articles. On a eu à reprendre totalement le code. Tout ce qu'on n'a pas eu dans le consensus, parce que le code a fait 10 ans, ce projet-là a fait 10 ans dans les pipelines de l'État. Aucun texte juridique au Mali n'a été autant discuté dans notre pays. Aucun. Et ce code des personnes et de la famille n'est pas un code fait pour les femmes. On a seulement voulu que dans la famille qui est l'harmonie, on a dit personne et la famille. Personne et la famille, ça ne veut pas dire que c'est un code qui va à l'encontre de nos mœurs, c'est pas un code qui va à l'encontre de nos traditions. Non. Il y a certains qui ont la volonté de maintenir les femmes à l'état de préhistorique. Et les femmes, on ne sera jamais dans cet état-là.
Mmh.
On utilise la religion pour faire du chantage à tous les régimes maliens.
Mmh.
Et le plus grave, c'est que les leaders politiques se laissent aussi embarquer. Ils sont soumis au chantage et ils acceptent le chantage.
Alors, madame, merci beaucoup, madame. Alors, pour cette question, avant de terminer avec vous, vous aimez une formule, je l'ai entendu souvent venant de vous. Vous dites souvent à vos sœurs, arrêtons de nous prendre les pieds, prenons-nous les mains. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement?
C'est-à-dire, au lieu de nous prendre les pieds, prenons-nous les mains. C'est-à-dire qu'au lieu de nous mettre des peaux de banane sous les pieds pour nous faire glisser et tomber.
Vous, les femmes.
Si une femme tombe, c'est toutes les femmes qui tombent.
Mm.
Prenons-nous les mains dans la solidarité, dans la concorde, et levons-nous ensemble pour qu'il y ait des changements, pour le bonheur effectif cette fois-ci, pas un bonheur politique fictif.
Mm.
Ce n'est pas un slogan politique.
D'accord.
Mais pour le bonheur effectif des Maliennes et des Maliens. Parce que le bonheur d'une femme ne peut se faire sans le bonheur de l'homme. On est ensemble, on est complémentaires et nous formons la famille.
Merci beaucoup, madame Fatoumata Siré Diakité. Je rappelle que vous nous accordez ce moment, malgré cette cérémonie de funérailles que vous quittez actuellement. Merci pour ce temps précieux que vous nous accordez, madame. Alors, Zan Fomba, vous venez d'entendre cette question concernant cette promotion féminine qui tarde même à s'installer au sein même de la classe féminine ici au Mali. Alors, quelle est aujourd'hui cette barrière qui existe entre les femmes elles-mêmes?
Bon.
Est-ce que c'est une lutte de leadership?
Non. En fait, je ne dirais pas que...
Allez-y.
Je ne dirais pas que c'est une lutte de leadership. Loin de là, s'en faut. Peut-être j'ai compris et j'ai beaucoup analysé sur plusieurs angles. En fait, souvent, la femme même est utilisée pour combattre la femme. Ça veut dire
par
quoi?
Qui?
Par des hommes politiques qui veulent chercher des places. Par exemple, moi, quand une dame est candidate à Bamako ici, moi je veux être candidat dans la même commune qu'elle. Maintenant, je cherche des femmes
pour la déstabiliser.
Elle a une rivalité et pour la déstabiliser.
Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
En fait, pour moi, ce qu'il y a lieu de faire, comme je l'ai toujours dit, il faut créer un agenda commun pour l'ensemble des femmes et un mouvement fort féminin par rapport à cela.
Mmh.
Vous avez vu, par exemple, des Irlandais, ils sont allés même jusqu'à créer un parti des femmes. Je ne dirais pas le cas au Mali, mais il faut créer un ensemble, un mouvement global au Mali qui puisse être un mouvement de proposition et de changement.
Merci beaucoup, Zan Fomba. Je rappelle que vous êtes d'ONU Femmes. Alors, Madame Boiré Bintoufoune Samake, vous avez le dernier mot pour clore cette émission. Vous êtes de Wildaf. Alors, aujourd'hui, que faut-il faire aujourd'hui pour que les femmes partent dans la même direction?
Bon, je m'associerai à ce que Zan a dit. Parce que nous avons eu beaucoup de partage d'expériences avec nos consoeurs de d'autres pays, comme au Sénégal, où vous avez le Conseil national des femmes sénégalaises, qui souvent, malgré leur diversité, parce que il y a beaucoup de structures, les femmes interviennent dans beaucoup de domaines, mais malgré ces divergences, lorsque ce conseil lance un mot d'ordre, toutes les femmes suivent ce mot d'ordre et se retrouvent au sein de ce conseil. Je pense qu'il faut donner, il faut renforcer la société civile malienne à pouvoir porter ses objectifs de changement pour que nous puissions regarder dans la même direction.
Merci beaucoup, madame.
Merci.
C'est la fin de cette émission, une émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. À la mise en onde, il y avait Mamadou Ouattara. Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission et Salim Djouara était à la régie vidéo. Nos invités, Fatoumata Siré Diakité de l'Association pour le Progrès et la Défense des Femmes, Zan Fomba de l'ONG, d'ONU Femmes, pardon, madame Boiré Bintoufoune Samake est de Wildaf. Alors, nous étions en train de réfléchir sur la promotion du droit des femmes au Mali en marge donc de ce forum qui se tient grâce à Wildaf. Alors, cette émission est organisée en partenariat avec la Fondation Ford. Nous vous disons à demain, bonsoir pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mounde.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.